question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Nachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous poser toutes les questions possibles et imaginables sur le temps. Pas le temps qu'il fait, mais le temps qui passe, ou pas. À l'occasion du premier congrès international sur le temps, Time World, à la Cité des Sciences à Paris, qui rassemble pour la première fois, du 20 au 23 novembre, tous ceux qui travaillent avec et sur le temps, qui n'a d'universel que le nom, entre le temps perçu de nos vies, celui mesuré des horloges à la précision désormais atomique, celui de l'évolution qui nous dépasse largement et celui tout à fait relatif de la physique moderne où, désolé de vous l'apprendre, chers amis auditeurs, le temps n'existe pas. Il y a de quoi s'interroger en compagnie de nos invités, l'astrophysicien Marc Lachiezeray et la biologiste Purification Lopez Garcia, autour de la question « Comment prendre la mesure du temps ?» et d'abord « Existe-t-il vraiment ?» Nous avons exactement 48 minutes 30 de notre temps à partager ensemble sur nos ondes en commençant par une première définition à contre-temps, évidemment. Bienvenue.
Je me demande si la meilleure définition qu'on peut donner au temps n'est pas celle qu'a proposée l'astrophysicien John Archibald Wheeler qui disait « Le temps est le meilleur moyen qu'a trouvé la nature pour que tout ne se passe pas d'un seul coup. »
Et voilà, ça commence bien avec cette définition du physicien et philosophe Étienne Klein qui participera lui aussi à ce premier congrès international sur le temps. Bonjour, Purification Lopez Garcia.
Bonjour.
Bonjour Marc Lachiezeray.
Bonjour.
Merci d'avoir pris sur votre temps précieux pour être en direct avec nous autour de cette énorme question sur le temps dont je vais évidemment vous demander aussi une définition, même si elle est impossible. En commençant d'abord par vous, Marc Lachiezeray. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Astroparticules et Cosmologie, spécialiste de physique théorique fondamentale, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur le temps. On peut citer Au-delà de l'espace passer du temps, Einstein à la plage, ou voyager dans le temps, la physique moderne et la temporalité, car pour les physiciens, comme pour les astrophysiciens modernes, en gros, depuis Einstein, le temps, ça n'existe pas. C'est bien ça, Marc Lachiezeray.
Absolument. On s'est aperçu que, finalement, on n'arrivait pas à réconcilier les différentes notions qu'on pourrait qualifier de temporelles, c'est-à-dire les notions de durée, les notions de causalité, les notions de chronologie. On n'arrivait pas à les synthétiser en une notion unique qui s'appelle le temps, comme le faisait Newton, parce que, comme l'avait énoncé Newton et jusqu'au 19e siècle, on pensait qu'il y avait un temps qui s'écoulait et que le temps définissait la causalité, définissait les durées, définissait la simultanéité, la chronologie. Eh bien, on s'est aperçu à la charnière du 19e et du 20e que ça n'était pas le cas. Le premier qui s'est aperçu de tout cela, c'est Einstein, par des réflexions sur les synchronisations. Et ensuite, il a construit sa théorie de la relativité pour tenir compte de cette observation que le temps n'existe pas. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on peut quelquefois entendre, ce n'est pas Einstein qui aurait dit par sa théorie que le temps n'existe pas. C'est que les physiciens ont constaté que le temps n'existe pas et qu'il a donc fallu construire une théorie qui s'appelle la relativité, qui puisse décrire les phénomènes physiques sans cette notion de temps. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, dans la vie courante, de continuer à utiliser cette notion.
On va y venir, bien sûr. Mais du coup, est-ce que je peux, au physicien, à l'astrophysicien que vous êtes, est-ce que je peux demander une définition du temps ?
Alors, justement, ce qui est caractéristique et pas très étonnant, c'est que depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, aucun physicien, aucun philosophe n'a réussi à donner une définition du temps. Hein, on connaît bien la phrase Saint-Augustin qui dit « Le temps, quand on ne me demande pas, je sais ce que c'est. Dès qu'on me demande d'expliquer, je ne sais plus. » Bon, pourquoi n'ont-ils pas réussi ? Parce que justement, le temps est une notion que j'appellerais multiforme, c'est-à-dire qui regroupe un tas d'autres notions qui les synthétisent d'une certaine manière. Et on peut très bien définir ces notions. Les notions, comme je disais, de synchronicité, de simultanéité, de durée, de causalité. Mais définir le temps autrement que la synthèse de tout ça, c'est difficile. Et comme aujourd'hui, on s'aperçoit que cette synthèse ne fonctionne plus, évidemment, c'est encore plus difficile. C'est-à-dire qu'il faudrait définir le temps comme ce qui existerait si ces notions pouvaient être synchronisées.
On comprend du coup le titre de votre conférence, hein, Marc Lachaise.
Oui, bien sûr.
De quoi le temps est-il le nom ? Pourri López Garcia, je suis ravie de vous recevoir en direct. Vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire écologie, systématique et évolution d'Orsay, où vous étudiez la diversité des microbes et des micro-organismes pour remonter à la source, aux origines et à l'évolution. Je ne sais pas si c'est du temps, mais en tout cas de la vie sur Terre. Alors, peut-on, et comment d'ailleurs, remonter le temps sur les traces des toutes premières formes de vie ? Peut-on déchiffrer l'origine de la vie ? Ce sera ça le thème de votre conférence.
Oui, en effet, on va essayer de remonter le temps qu'on ne sait pas définir pour essayer de imaginer ou de reconstruire comment, à partir des éléments très simples qui composent notre univers, la vie s'est formée sur Terre et comment elle s'est diversifiée pour donner naissance au foisonnement d'organismes actuels, donc les animaux, les plantes, les champignons, et la plus grande partie de la diversité qui est celle des micro-organismes.
C'est ce que vous étudiez, on va y revenir, mais pour vous du coup qui essayez de remonter le temps, est-ce que vous pouvez donner une définition alors, du temps ou des temps avec lesquels vous travaillez?
En biologie, on est très mauvais pour les définitions. D'ailleurs, on ne sait même pas définir la vie et on ne sait même pas définir les espèces. On travaille toujours dans des concepts un peu flous, ce qui ne nous empêche pas de continuer à travailler sur la vie, sur les espèces, sur l'évolution et sur les différents temps qu'on peut intégrer en biologie, qui sont plutôt des durées et qui se passent à différentes échelles. Dès l'échelle des réactions biochimiques, qui est une échelle très rapide, à l'échelle de la réplication de l'ADN, où on peut rajouter quelques milliers ou un millier de nucléotides par seconde, par exemple.
Ah, par seconde, oui, c'est ça, enfin, très rapide.
Au niveau des bactéries, c'est le cas. Et jusqu'au temps très très long, dès l'évolution de la vie sur Terre, qui va jusqu'à environ 4 milliards d'années. Et puis, on a des temps intermédiaires, les temps de la spéciation, c'est-à-dire le temps de changement des populations, des espèces, les unes par rapport aux autres. L'espèce est une entité qui évolue. C'est l'idée ou c'est cette quête qu'avait Charles Darwin, expliquer la transformation des espèces. Là aussi, on peut impliquer une durée en temps, une succession d'événements.
Succession d'événements durée, hein, je pense qu'on s'accorderait peut-être là-dessus comme définition du temps, Marc Lachaiseret.
Oui, je voudrais quand même faire une précision, c'est qu'effectivement, le temps n'existe pas en tant que tel dans la physique, mais ça n'empêche pas dans la vie courante, et quand on est dans d'autres disciplines comme la biologie, la géologie, etc., d'utiliser une notion de temps qui est reconstruite, qui est imprécise, qui n'est pas rigoureuse, mais qui nous suffit dans la vie courante tant qu'on n'a pas besoin d'une précision, disons, de l'ordre de la microseconde.
Mais c'est ça, on y reviendra, c'est ça qui a tout changé.
Voilà,
c'est quand il y a des horloges atomiques d'une précision absolue, on se rend compte.
Oui, c'est-à-dire on définit quelque chose qu'on appelle, très à tort, le temps universel, parce qu'il n'a rien d'universel, qui est en fait le temps défini par une certaine horloge à un certain endroit. Et ensuite, on s'aperçoit que les autres horloges ne peuvent pas être synchronisées avec cette horloge, mais elles peuvent être synchronisées avec une certaine précision, disons de l'ordre de la microseconde. Et donc, ça nous suffit en biologie, en géophysique, et dans des tas de disciplines, et évidemment dans la vie sociale. Donc, c'est une reconstruction sociale qui fonctionne très bien. Mais
en
dans
tout
la
cas,
physique théorique,
nous
non.
À la radio, notre unité, allez, on va dire, c'est quoi ? C'est la seconde, c'est la minute. Moi, j'ai l'horloge devant mes yeux et je suis rivée à ces secondes qui passent autour de la question comment prendre la mesure du temps, de tous ces temps différents ? Pourquoi avons-nous tant de mal aussi à appréhender tous ces temps qui existent ou qui n'existent pas vraiment ? Je propose un nouvel éclairage pour en rajouter, allez, encore une petite couche. C'est l'éclairage en quatre dimensions et à contre-temps du neurobiologiste Pier Vincenzo Piazza, qui était il y a quelques mois ici même notre invité autour de son ouvrage Homo Biologicus, dans lequel il s'interroge aussi sur notre perception humaine, trop humaine du temps.
Quelque chose que je trouve qui a influencé la pensée philosophique, mais la pensée en général, c'est ce que j'appelle une erreur d'échelle. On regarde souvent les choses avec une échelle ou en prenant compte des dimensions qui ne sont pas suffisantes. Donc il y a des problèmes énormes qui apparaissent juste parce qu'on ne regarde pas avec les bons zooms. Dans les problèmes existentiels du présent, du futur ou du passé, je trouve que quelque chose qu'on ne intègre pas bien, les êtres humains, c'est le temps. Par exemple, un des problèmes de la philosophie, c'est le problème de l'identité, parce qu'un verre d'eau liquide ou un verre d'eau congelé sont clairement différents, même si c'est la même chose. Tout ça, c'est compliqué si on oublie le temps, parce qu'on pourrait penser que les deux verres sont en fait la même chose, mais à deux temps différents. Donc, est-ce que l'idée du présent, du futur ou du passé n'est pas juste une incapacité de l'homme d'intégrer la dimension temps? Nous voyons en fait la réalité comme des coupes d'un espace tridimensionnel, mais le temps nous échappe. Et la question, c'est de se dire, est-ce que par hasard, on ne serait pas des êtres pas tridimensionnel, mais quatridimensionnel, dont une des dimensions est le temps, et cette histoire qu'on est, qu'on grandit et qu'on meurt, ne serait pas rien d'autre que, en fait, on est toujours là. Et c'est juste nous que nous n'arrivons pas à le percevoir, tout simplement parce que nous ne percevons pas le temps, comme nous ne percevons pas les ultrasons, comme nous ne percevons pas les ondes radio, comme nous ne percevons pas beaucoup de choses. Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense de commencer à réfléchir comment la réalité pourrait nous apparaître différente si on pourrait avoir une bonne perception du temps.
Qui veut répondre à cette impossible et géniale réflexion de Pierre Vincenzo Piazza, neurobiologiste pourri?
À nouveau, je ne sais pas, je pense qu'il y a plusieurs temps dans le temps. En tant que biologiste, je pense que peut-être la biologie n'est qu'une lutte pour la persistance dans un temps qu'on ne peut pas définir et que ça se passe
en dépit des... La persistance continue à être là,
oui,
quoi.
En dépit des individus, je dirais, c'est la persistance des systèmes qui sont hors d'équilibre dans la durée, dans le temps, si on peut utiliser l'expression. Et même si on disparaît, cette vie va progresser. Donc, c'est une possible réponse à cela.
Je ne sais pas s'il y a une réponse, hein, Marc Lachaiseraie, mais c'est une piste, en tout cas, de dire...
Oui, qu'on... c'est une piste, mais ça correspond précisément à ce qu'on fait en physique théorique, en relativité, parce qu'on travaille dans l'espace-temps, comme vous le savez, qui est à quatre dimensions. Et plus, quand je parle de quelqu'un, de moi, par exemple, au lieu de parler de moi à l'instant présent, si je veux parler de moi, ou si je veux parler, par exemple, de Victor Hugo, je ne veux pas parler de Victor Hugo spécialement à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, mais Victor Hugo dans toute son existence. C'est-à-dire, je veux décrire quelque chose qu'on pourrait appeler une succession d'événements, donc dans l'espace-temps, pas un point, mais une ligne. On va appeler ça la ligne d'univers. Et qui suis-je, moi? Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un événement, vous êtes une suite d'événements. Vous êtes votre ligne d'univers, donc quelque chose qui existe dans l'espace-temps à quatre dimensions. Et cette ligne d'univers, nous la décrivons chacun dans un certain ordre. Et ça, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'au lieu
là,
de décrire...
Là, il y a une flèche du temps, quand même. On n'a pas le choix. Non, ce n'est pas une flèche du temps. Mais on peut pas, ce n'est pas réversible. On ne peut pas revenir en arrière.
Non, on est condamné à ça. Mais ça ne vient pas du temps. Ça vient de nous. Qu'est-ce qui nous oblige Puisque nous avons une existence. Cette existence, on peut la concevoir, on peut y penser comme un bloc. Je pense à Victor Hugo comme quelqu'un qui a vécu, je ne sais plus combien d'années, mais à une autre époque. Mais ce n'est pas la même chose que de penser à Victor Hugo à tel instant. Et donc, la réalité de Victor Hugo, c'est cette ligne que lui-même n'a pu vivre qu'en s'écoulant, avec cet écoulement, seconde après seconde, non pas d'un temps, mais de sa durée. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons chacun notre ligne de vie. Et quand on les trace dans l'espace-temps, ça forme une sorte d'écheveau, de pelote, comme une pelote de laine ou de tissu. Et le long de chacune de ces bouts de tissu, si vous voulez, nous décrivons, nous avançons avec ce que nous appelons le temps. Et dire que le temps existe en physique, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui repère simultanément l'écoulement sur toutes ces pelotes, alors qu'elles peuvent être totalement imbriquées et mélangées. Et c'est ça qui n'existe pas.
Et pourquoi... c'est ça qui est très compliqué, enfin pour nous, à intégrer en tant que
oui,
être humain.
Parce
c'est pour
que
ça qu'on a tant de mal à l'intégrer.
Ce qui se passe, c'est que quand on regarde nos différentes existences avec une précision limitée, ce sont des fils, ce sont des lignes qui sont presque confondues à l'échelle de la physique parce que nous avons des vitesses très faibles les uns par rapport aux autres, par exemple. Donc tout se passe comme si nous décrivions, nous tous ensemble, une seule ligne d'univers, comme si nous étions confondus. Et dans ce cas-là, la durée qui s'écoule pour chacun de nous, On peut l'appeler le temps et on peut faire semblant que ce soit universel, ce qu'on a fait jusqu'au début du XXe siècle. Mais dans la réalité, dès qu'on a une montre précise, dès qu'on veut faire des mesures un peu plus précises ou qu'on s'éloigne un peu de la Terre, évidemment, ça ne marche plus. Mais donc, cette image de...
Ça ne marche plus. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec la précision des horloges, on peut, d'un étage à l'autre d'un même immeuble, c'est pas la même heure. Hein,
c'est
quand même assez très, très troublant.
Si vous voulez, à l'intérieur d'une pièce comme le studio où nous sommes... Mmh. Le temps ne s'écoule pas. Il n'y a pas d'écoulement du temps. Si vous avez une horloge en bas et une horloge en haut, chaque horloge va mesurer, pour être rigoureux, elle mesure la durée de son histoire, parce qu'une horloge ou une montre ne mesure jamais le temps, elle mesure la durée qui s'écoule pour elle. Et il se trouve qu'aucune de ces deux durées des horloges ne coïncide avec le temps. Ne serait-ce que, puisque les durées ne coïncident pas, les deux horloges... Il est impossible de les synchroniser. Au mieux, on pourrait penser que l'une des deux décrit le temps et pas l'autre. Mais si vous avez 50 000 horloges, ça veut dire que sur les 50 000 horloges, il n'y en a qu'une qui pourrait au mieux décrire le temps, mais laquelle ? Alors, on a choisi une qui est à Greenwich et qui est une sorte de référence.
C'est notre temps universel, sur RFI.
Qu'on appelle le temps universel, mais il n'a absolument rien d'universel. Dès que vous êtes à 3 mètres de cette horloge, ce qui s'écoule pour vous, ça n'est plus la même chose. Ce ne sont plus les mêmes durées.
Voilà, en fait, là c'est le temps égal à la durée. Pourri, j'ai envie de vous demander, puisque vous essayez de remonter aux origines de la vie, est-ce qu'il y a justement un temps originel ? Est-ce qu'il y a un point zéro du temps ? Ou alors là, on peut partir aussi dans des questions philosophiques. Y avait-il du temps avant le temps, etc.
Alors, en tant que biologiste, je m'intéresse à l'origine de la vie sur Terre. Et oui. Donc, ça va être une durée qui rentre dans ce qu'on connaît comme l'histoire de la Terre. Après, on peut y penser à l'origine de notre univers, au Big Bang, si on veut l'appeler comme ça, etc. Donc, il y a des durées ou des temps qui ont été définis. La Terre est là, dans notre système solaire, environ 4,6 milliards d'années. L'origine de la vie va apparaître il y a environ entre 3,5 et 4 milliards d'années.
Donc assez vite, enfin dans le temps, assez temps
vite
de la Terre.
Après la création de la Terre, je dirais dès que les conditions ont été permissives, c'est-à-dire on a eu de l'eau liquide à la surface de la Terre et les températures étaient descendues en dessous de 100 degrés. On sait que les organismes les plus thermophiles vivent jusqu'à 120 degrés, 122. Sur Terre actuellement. On imagine bien que la vie est apparue à des températures plus faibles, mais probablement un peu plus chaudes que maintenant, peut-être entre 60 et 80 degrés, quand la Terre était probablement très riche en composés organiques produits par synthèse abiotique à partir des systèmes hydrothermaux, mais aussi par l'apport de la matière organique extraterrestre avec des météorites, avec des comètes, et aussi à travers la synthèse des matières organiques sur l'atmosphère avec l'apport de l'énergie solaire charges électriques. Donc on a multiples sources de matières organiques.
Qui permettent l'émergence de la vie, oui.
Attention, on a besoin de l'eau liquide, on a besoin des matières organiques, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'avec ça, on a la vie. C'est des conditions nécessaires, mais loin d'être suffisantes. Et on essaie de comprendre pourquoi, justement, on a eu ce passage d'une chimie organique qui était très riche, certainement, à quelque chose qu'on appelle déjà une biochimie des organismes qui sont capables de se reproduire et d'évoluer.
Et puisqu'on est sur une question de temps, ça peut être dans un temps très court, très long. On en a une idée d'échelle de temps.
Effectivement, ça peut être dans un temps très court. Hein, c'est toute la question de l'origine de la vie. Est-ce que ça a été un passage qu'on pourrait définir de manière arbitraire ? Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la complexité des interactions entre la matière organique et à un moment donné, on décide par convention qu'on est assez complexe pour définir la vie ? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose, une propriété émergente, une espèce de transition des phases qui a fait qu'un phénomène s'enclenche, celui potentiellement de l'évolution darwinienne, et qu'on pourrait appeler d'une manière plus objective la vie.
La question est ouverte. Temps, question ouverte, question énorme autour de la question de notre rapport au temps, qui passe ou pas. Je propose un morceau intemporel, justement, avec le temps. Léo Ferré, repris par Sophie Unger sur RFI.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire, c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un sermon maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. C'est à une de ces gueules, la galerie je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir qu'on attendrait sans moi toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du monde et des bijoux, à qui l'on vendu son
âme. Avec le temps. Sophie Unger reprend Léo Ferré sur RFI autour de la question du temps qui nous occupe aujourd'hui à l'occasion du premier congrès international sur le temps Time World à la Cité des Sciences à Paris. À partir de demain, jeudi jusqu'au samedi 23 novembre, tous les chercheurs, penseurs, acteurs du temps qui passe ou pas, qui existe ou pas, sont rassemblés dans ce premier colloque international sur le temps. Nouvel éclairage tout de suite, à méditer peut-être, du philosophe Frédéric Worms, membre du Comité consultatif national d'éthique, qui lui aussi, bien sûr, réfléchit sur le temps.
Toute expérience négative, une souffrance, une maladie, engendre un rapport conscient au temps. C'est l'urgence de la maladie, de l'urgence vitale, le chronique, etc. Et inversement, tout rapport explicite au temps est aussi une souffrance pour les humains. Dès qu'on regarde sa montre, c'est qu'on s'ennuie. Dès qu'on pense à l'avenir, c'est mélancolique, je pense, et au passé aussi. Pour moi, le rôle de la politique, c'est de permettre une expérience heureuse du temps qui dépasse le rapport conscient au temps. C'est pour ça que je pense qu'il faut dépasser la promesse, aussi bien que la nostalgie, mais permettre des progrès réels dans le temps. Donc, quelle politique du temps doit-on avoir aujourd'hui ? Comment faire que les êtres humains pensent moins au temps, mais agissent réellement dans leur temps ?
Sacrée question existentielle, philosophique, éthique du philosophe Frédéric Worms, qui nous renvoie à nous-mêmes et à notre rapport au temps qui n'existe pas en tant que tel pour le physicien que vous êtes, non, Marc Lachaiserey, mais on peut quand même, mais on doit penser et qu'on vit.
Je crois simplement qu'il suffirait de remplacer le mot temps par durée dans son discours. C'est-à-dire, il parle du rapport au temps comme on a l'habitude lorsque on s'intéresse aux durées que nous ressentons, que nous percevons. Mais évidemment, on utilise toujours le mot temps, c'est une habitude. Mais en fait, on ne perçoit pas le temps. C'est-à-dire, si vous réveillez au milieu de la nuit, dans un endroit, mettons, que vous ne connaissez pas, où il n'y a pas de repère, il vous est impossible de savoir s'il est minuit, 1h du matin, 2h du matin. En revanche, vous ressentez très bien la durée pendant laquelle vous restez éveillé. Si c'est une demi-heure, si c'est 1h, si c'est 2h, ça, vous le ressentez. Vous avez donc une perception de la durée et pas du temps. Et ce n'est pas étonnant, puisque le temps n'existe pas dans la nature, c'est une reconstruction. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit « je mesure le temps avec une montre, une horloge, un sablier, tout ce que vous voulez », vous ne faites que mesurer la durée éprouvée vécue par cette horloge, la durée qui sépare le moment où vous l'avez mise à l'heure du moment où vous la regardez. C'est-à-dire, vous avez une horloge qui est absolument parfaite, qui sort d'usine, une montre parfaite qui sort d'usine, très précise. Si vous ne la mettez pas à l'heure, elle ne vous donnera jamais l'heure.
Les montres mesurent la durée, mais en même temps,
c'est un chronomètre.
Une montre, c'est un chronomètre, voilà. D'accord. Donc là, je vous suis bien. En même temps, la question que soulevait le philosophe Frédéric Worm, c'était aussi une question morale. C'est aussi de dire que finalement, penser au temps en tant qu'être humain, ça nous fait souvent souffrir. Alors, puisqu'en fait, on se voit effectivement vieillir, même s'il n'y a pas de flèche du temps, il va dans un sens, on ne peut pas le remonter dans l'autre, et qu'au fond, on a du mal à être dans le temps présent, et quand on pense au temps, on pense au passé, ou on se projette dans le futur. Et
c'est ça qui fait notre identité, parce que finalement, mon identité, elle est faite de tout ce que j'ai vécu, et elle est faite aussi des prévisions de ce que je vais vivre, de mes projets, de mes souhaits, de ma volonté. Et tout ça, c'est dû à ce fait tragique que notre existence, nous n'avons pas le moyen de la vivre d'un seul coup, de la vivre sur le mode de l'éternité, pourrait-on dire. On est obligé de la parcourir petit à petit. Et donc, ceux qui font allusion à une vie éternelle, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est simplement avoir la capacité de vivre son existence d'un seul coup et non plus seconde après seconde ou microseconde après microseconde.
Et d'avoir justement cette vision d'ensemble de tous nos temps et de tout ce qu'on peut être au cours d'une vie.
Voilà. Et puisque, pour un physicien relativiste, ce qui compte, c'est sa vie entière, la ligne d'univers d'un coup, on doit se poser la question, qu'est-ce qui nous oblige à la vivre instant après instant, dans un certain sens, sans pouvoir retourner en arrière, plutôt que d'un seul coup? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient des lois de la physique? Si vous prenez un caillou, bon, est-ce que le caillou, lui, il vit instant après instant, ou il vit sa vie d'un seul coup? On n'a évidemment pas moyen de répondre à cette question.
Mais comment on fait pour vivre sa vie d'un seul coup? Vous y arrivez, vous, Marc Lachaiserey?
Mais non, on n'y arrive pas. C'est bien notre tragique, mais on peut essayer aussi. Et ça rejoint un peu ce que disait Frédéric Worm. Ça permet de relativiser beaucoup de choses, parce que, bon, à un moment donné, je ne sais pas, vous avez mal aux dents, vous souffrez, mais vous savez très bien que ça n'est qu'un épisode minuscule dans votre vie, et quand vous y repenserez dans 15 jours, ça vous fera presque sourire. Et vous savez aussi, à n'importe quel instant, que vous avez vécu des instants de bonheur. Bon, vous les avez vécus, vous n'êtes pas en train de les vivre, mais vous pouvez néanmoins les goûter et en profiter de la même manière. C'est pas très grave qu'il soit dans le passé plutôt que dans le présent. Vous voyez, tout ça permet de se faire une espèce de philosophie peut-être.
Voilà, une philosophie relativiste, de relativiser. Est-ce que pour vous, en tant que biologiste, est-ce que Marc Lachaiserey nous expliquait comment relativiser finalement peut s'appliquer dans la vie, enfin en tout cas peut nous aider. Est-ce que vous, de travailler sur l'origine de la vie, sur des tels temps, sur des tels micro-organismes, on y reviendra, extrémophiles, est-ce que ça change quelque chose dans votre vie et votre temps à vous?
Je pense qu'on doit s'habituer à pouvoir travailler, imaginer, sinon pas à différents temps ou mesures du temps, à différentes mesures de durée. Et ça, on l'expérimente déjà avec notre propre vie. Pour nous, quand on est tout très petit, le temps dure longtemps.
C'est vrai.
Et quand on s'est fait vieux, le temps vole et il est de plus en plus court. Et je pense que c'est pareil quand on essaye d'imaginer, de percevoir des grandes échelles temporelles, quand on essaye de se projeter d'ici l'origine de la vie, il y a 4 milliards d'années, c'est difficile pour nous d'appréhender, de vraiment sentir, de comprendre cette échelle de temps ou de durée qui nous dépasse de beaucoup, notre temps de vie qui est pour nous notre unité des temps.
Bien sûr, bien sûr.
Et est-ce qui est relative.
Et oui, est-ce que vous y arrivez un peu? Parce que moi, je n'y arrive pas, on me dit 4 milliards d'années. Effectivement, je ne perçois pas ce que ça peut vouloir dire.
Je pense qu'en faisant l'exercice, on peut le faire. On peut se transporter dans un temps qui est plus géologique que biologique. Mais bon, c'est un exercice de réflexion.
À pratiquer autour de la question comment prendre la mesure du temps. Alors, il y a aussi, dans ce premier congrès international sur le temps, des chercheurs comme vous, mais bien sûr, des artistes, en particulier des musiciens, comme Laurent Deville, de jazzman, virtuose et pluridisciplinaire, qui devait être avec nous en studio, mais qui n'a pas pu à cause d'un décalage horaire. Tiens, donc encore le temps, il rentrait ce matin même du Chili. Ce pianiste assez extraordinaire s'intéresse beaucoup au temps. Le titre de sa conférence: les musiciens sont-ils des faiseurs de temps? Je vous laisse y réfléchir en écoutant une de ses compositions, Over the Clouds, sur RFI. Over the Clouds, Laurent Deville de Le Faiseur de Temps, ou plutôt de Tempo sur RFI, qui s'interrogera lui aussi comme vous, pour Ruy López-García et Marc Lachaiseraie, dans ce premier congrès international sur le temps, autour de la question comment prendre la mesure du temps, qui passe ou pas, qui existe ou pas, qui est une convention ou pas. Beaucoup de nos auditeurs internautes s'interrogent et nous interrogent sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de questions, je peux vous citer celle de Blanchard peut-être, qui se demande pourquoi est-ce qu'une journée fait 24 heures, si un jour avait moins d'heures ou plus d'heures, est-ce que ça aurait des conséquences sur notre vie? Et puis une autre question, depuis Goma, à RDC, au Congo, un de nos auditeurs nous demande si finalement le temps humain influe sur les conditions sociales et vice-versa. C'est vrai que le temps, Marc Lachaiseraie, le temps, il y a le pouvoir du temps, mais le temps c'est aussi le pouvoir, non?
Mais pour moi, le temps est une construction sociale. Et c'est une composante essentielle de notre vie sociale. Alors, ce qui se passe, c'est que à partir de ce que nous éprouvons, c'est-à-dire ces durées, et du fait que, à la précision de nos existences, nous arrivons à synchroniser nos durées, c'est-à-dire si nous prenons une origine commune, nous avons maintenant toutes nos montres qui sont à l'heure et qui sont synchronisées. Et c'est ça qui va définir le temps, avec un choix de découpage, évidemment, à partir du découpage jour-nuit, ensuite en découpage en heures, en minutes, etc.
Qui est un découpage arbitraire, mais qui est basé sur des rythmes...
C'est pour des raisons sociales, toujours. Mmh. Hein, mais... Tout ça est une construction sociale, mais qui est absolument importante et déterminante dans notre société. Et il est bien évident que si vous voulez accéder au pouvoir, si vous voulez exercer le pouvoir, vous devez jouer avec le temps, avec les durées. Et si vous regardez les Chinois, par exemple, ils n'ont pas vraiment de notion de temps. Ils ont plutôt des notions de ce qu'ils appellent les saisons, c'est-à-dire le moment adéquat pour faire quelque chose. Peu importe la chronologie, peu importe que pour ce moment-là, il faille attendre un certain moment. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans la stratégie. C'est-à-dire, ce qui fait partie de leur stratégie, c'est que s'ils doivent, par exemple, attaquer une autre armée, ils ne vont pas se dire « on va l'attaquer après-demain au matin » et se tenir à ça. Ils vont dire « on va attendre le moment où les conditions sont vraiment favorables. » Et si ces conditions n'arrivent jamais, ils n'attaqueront pas. Et finalement, c'est quelque chose qui s'abstrait de cette notion de temps, en tout cas qui lui donne beaucoup, beaucoup moins d'importance. Et dans leur philosophie, la notion de temps est certainement beaucoup moins importante que dans la nôtre.
En même temps, aujourd'hui, on vit dans un monde où on est tous synchronisés, ou pas d'ailleurs, mais voilà, mondialisés, très important que nos horloges soient synchronisées, les informations circulent, enfin voilà, tout ce qui se passe doit se faire en même temps.
Mais ça a commencé au début du XXe siècle, et en fait... Einstein lui-même, qui était au bureau des brevets, réfléchissait beaucoup sur ces histoires de synchronisation parce que, évidemment, les voies ferrées internationales étaient en train de se mettre en place. Donc, il fallait trouver un moyen de synchroniser les horloges entre Paris, Berlin, etc. Et donc, il a beaucoup réfléchi à tout ça. Et c'est à partir de ces réflexions-là qu'il s'est aperçu que, à cause de la vitesse de propagation finie de la lumière, il était impossible de faire une synchronisation rigoureuse. Et à partir de cette constatation de l'impossibilité de la synchronisation, il en est arrivé à l'impossibilité d'existence du temps. Et c'est ça, finalement, qui l'a conduit à sa première théorie, celle de la relativité restreinte, en 1905.
Et qui s'applique alors sur Terre, mais ailleurs aussi, Marc Lachaiseraie ?
Et qui s'applique a fortiori ailleurs. C'est-à-dire que plus l'échelle à laquelle vous regardez est grande, est élevée, moins la notion de temps va s'appliquer correctement. Par exemple, on cite souvent le système de repérage GPS avec des satellites qui sont en orbite autour de nous. Bien, à ce moment-là, si vous supposiez que le temps s'écoule dans les satellites et que vous fassiez l'analyse du système avec cette hypothèse, eh ben vous feriez très rapidement des erreurs qui atteindrait la microseconde, et la microseconde, c'est 300 mètres. Donc ça veut dire que très rapidement, si vous ne teniez pas compte du fait que le temps ne s'écoule pas dans les satellites, en tout cas, il n'y a pas un temps qui s'écoule à la fois sur Terre et dans les satellites, si vous n'en teniez pas compte, votre système GPS serait imprécis, il dériverait de centaines de mètres chaque, je sais pas, chaque heure ou quelque chose comme ça.
Donc il y a encore moins de temps sur Mars ou ailleurs, ça n'a pas de sens de dire quelle heure est-il sur Mars, ça n'a pas
voilà,
de sens.
Si vous vous dites qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la planète Mars, cette question n'a aucun sens. Et dire que cette question n'a aucun sens, c'est que vous pouvez trouver 10 personnes qui vont donner 10 personnes différentes, et il n'y en a aucune qui a plus raison que les autres. En fait, il y aurait une infinité de réponses possibles, toutes contradictoires et toutes aussi exactes ou aussi fausses les unes que les autres.
On va donc revenir ou rester sur Terre avec vous, Puri Lopez-Garcia, pour aller, puisque vous cherchez les origines de la vie, hein, les premiers temps finalement où la vie est apparue sur Terre, vous la cherchez dans des zones particulièrement inhospitalières et notamment du côté de l'Éthiopie, dans un site hydrothermal, c'est ça qui est parmi les plus inhospitaliers de la planète.
Oui, en effet, c'est un endroit tellement inhospitalier qu'il y a des endroits là-bas où on a l'eau liquide à la surface de la Terre et on ne trouve pas la vie parce que c'est un site où on a des gradients de paramètres qui atteignent des valeurs extrêmes et c'est des combinaisons de très bas pH, donc forte acidité, très forte salinité. On est au-delà des 30% poids volume en sel.
Donc c'est invivable complètement.
Et température. Et donc on trouve de la vie en bordure de certains de ces systèmes. Est une vie très intéressante, composée essentiellement des archées halophiles. Mais il y a des endroits, des piscines multi-extrêmes, très acides, très salées et chaudes, où on ne trouve pas plus la vie. Donc ça veut dire c'est intéressant parce que souvent on utilise le critère de l'eau liquide à la surface d'une planète comme un critère d'habitabilité. Or, on est sur Terre, une planète qui foisonne des vies et où on a des conditions ou des endroits où on ne trouve pas la vie.
Donc chercher les origines de la vie, il faut chercher là où il n'y en a pas.
Bon,
là où il n'y en a pas encore,
là,
il y en a plus.
Là, plus que de chercher les origines de la vie, c'est chercher les limites physico-chimiques de la vie, qui est une question différente, même si en relation, c'est jusqu'où la vie peut aller. La vie basée sur une biochimie similaire à la vie terrestre.
La vie basée sur le temps, hein, tout de même, ou en tout cas sur la durée, puisqu'on ne va plus parler de temps, on va peut-être parler de durée. Allez, où on échappe ou pas, au temps qui passe, on écoute Cyndi Lauper en attendant Time After Time sur RFI. After Time, Cyndi Lauper sur RFI, on ne se refait pas autour de la question du temps, en compagnie du physicien Marc Lachaiseraie, pour qui le temps n'existe pas, mais évidemment la durée existe, en compagnie également de la biologiste Puri Lopez-Garcia, qui elle remonte aux origines, au tout début des temps, de la vie sur Terre. Nous continuons de nous poser quelques-unes des immenses questions qui seront soulevées à la Cité des Sciences, lors du premier congrès international sur le temps. Cette fois-ci, c'est une astrophysicienne, Hélène Courtois, oui, que vous connaissez bien, puisqu'elle fut votre étudiante, Marc Lachaiseraie, qui a cartographié le continent géant, hein, qui abrite notre Voie lactée. Hélène Courtois s'interroge et nous interroge sur le temps qui manque.
Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment ralentir le temps perçu. C'est-à-dire que parfois, il y a des journées qui nous paraissent longues et on a le temps de profiter de cette journée avec beaucoup de bonheur. Et puis parfois, il y a des journées qui passent tellement vite. Et je sais que la perception du temps est beaucoup due à notre état mental en réalité. Et il y a des moines, par exemple vietnamiens, qui avec la méditation, expliquent qu'on peut ralentir, c'est la perception, hein, mais du temps qui passe. Donc j'aimerais savoir s'il y a des expériences de physique ou de biologie qui montrent ces différences de vitesse d'écoulement du temps perçu.
Vous avez une réponse pour Ri Lopez Garcia? Est-ce qu'on peut mesurer cette, effectivement, hein, différence d'écoulement du temps selon notre état physique, mental?
Oui, je pense qu'il faudrait plutôt parler à un psychologue qu'à un biologiste, parce que le temps biologique va être un peu le même. Mais effectivement, en tant qu'être humain, je comprends tout à fait la question. Et je pense que c'est un entraînement mental qu'on doit avoir pour s'entraîner à percevoir le temps à différentes échelles et à celles qu'on veut. Donc, si on veut maîtriser le temps, il faut maîtriser son mental pour s'adapter.
Donc ça, c'est plutôt effectivement une question de psychologie ou de méditation, d'apprentissage. Mais dans les organismes, ils n'ont pas la même appréhension du temps quand un organisme...
Non, ni la même durée.
Et la même durée, puisqu'il y en a qui vivent très peu, d'autres très longtemps. Enfin, ça ne dépend pas de la taille non plus. Enfin,
non, et on pourrait dire qu'il y a des organismes qui ne meurent jamais parce que qu'un se reproduisant donne lieu à deux cellules, par exemple, qui vont elles-mêmes se diviser. Alors, est-ce qu'on est devant l'immortalité? On pourrait poser la question, bon, certaines de ces cellules, au bout d'un certain temps, meurent quand même, mais en principe, on aurait un début d'immortalité, c'est-à-dire qu'une cellule qui se divise de manière continuelle, une bactérie, pourrait perdurer très longtemps.
Et ça, ce sont les premières à l'origine, elles pourraient...
Alors, il y a une continuité physique entre les premiers, donc évidemment, toutes les composantes biochimiques de nos corps, de nos structures, changent au cours du temps. Mm-hmm. On n'est que des machines à recycler de la matière, de l'énergie. Mais il y a une continuité physique néanmoins depuis les premiers organismes. On sait que toute la biologie actuelle dérive d'un dernier ancêtre commun universel qui était déjà un organisme assez complexe, mais qui avait une même biochimie, qui utilisait de l'ADN pour stocker de l'information héréditaire, qui utilisait des protéines faites à partir des 20 acides aminés tous les mêmes, et qui avait un même code génétique, c'est-à-dire que les mêmes triplets de nucléotides codés pour les mêmes acides aminés. Et donc ça, c'est des universels de la biologie. Donc on descend logiquement, on peut inférer un ancêtre qui avait déjà ses propriétés, mais c'était un ancêtre très complexe. On peut imaginer des cellules encore plus simples et qui ont fait avec des éléments de ce type de biochimie. Et à partir desquels il y a une continuité de reproduction et donc une continuité physique.
Le temps, là, effectivement, à la fois il existe et il n'existe pas. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vers plus de complexité? Même pas, Marc Lachaiserey. Comment est-ce qu'on pourrait dire
Nous sommes des organismes très complexes. C'est-à-dire que nous sommes faits de différents organes, de différentes molécules, de différentes cellules. Et il se trouve que toutes ces composantes ont des rythmes. C'est-à-dire notre cœur bat à peu près à la seconde, nous avons un rythme pour notre digestion, pour notre respiration, pour nos échanges cellulaires, pour tous les échanges moléculaires, pour la reproduction des cellules, etc. Et quand on parle de rythme, ça n'est rien d'autre qu'une durée caractéristique. C'est-à-dire si vous dites un rythme...
Une durée qui revient...
Hertz, ça veut dire une période de... Une seconde, une durée d'une seconde. 10 Hertz, c'est un dixième de seconde. Donc, tous ces rythmes veulent dire des durées. Et donc, notre organisme est une sorte de mélange de tous ces rythmes, de toutes ces durées caractéristiques qui se composent. Et selon les circonstances, la température, la lumière, notre état de conscience, justement, ces rythmes peuvent changer. Et il me semble évident, bien que je ne connaisse pas, et je pense personne ne connaisse le mécanisme exact, que la manière dont nous ressentons les durées c'est-à-dire l'impression que le temps ralentit ou accélère, je pense qu'il est lié à ces rythmes, parce que nos échanges...
Ah, des rythmes différents, biologiques, qui se synchronisent
par exemple, ceux de nos échanges neuronaux. Parce que quand on dit « j'ai l'impression qu'il s'est écoulé 10 secondes », eh bien, comment cette impression... Comment, d'où vient-elle dans notre esprit? Je pense qu'elle vient que, ben, par exemple, nous savons que nous avons d'habitude 10 micro-pensées à la seconde, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, si nous avons eu 100 éclairs de pensée, nous avons ressenti 10 secondes. Bon, ben, si nos neurones vont un peu plus lentement, on a l'impression que, ça, que le temps va s'écouler plus vite, et réciproquement. Et ça expliquerait aussi... Pourquoi, quand on est âgé, on a l'impression que le temps s'écoule plus rapidement? Bah, tout simplement parce que nos échanges neuronaux sont un peu plus lents, comme finalement le reste de nos mouvements. Il y a une certaine fatigue, une certaine usure, je ne sais pas. Bon, évidemment,
vous dites avec le sourire, Marc Lachaiserey, vous avez dit tout à l'heure que cette perception du temps donc relatif qui n'existe pas vraiment... Vous donnez
des
une
durées,
sorte de
je parle de perception durées,
hein,
de durée, là. Ouais,
vous donnez une forme de philosophie de vie. Est-ce que du coup, parce que quand on parle du temps, on parle de la vie, on parle de la mort, est-ce que du coup, ça permet de l'aborder le temps qui passe avec un peu plus de sérénité? On va terminer
Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais si vous voulez avoir une philosophie de votre propre existence qui se tienne, il faut bien être conscient du fait que vous allez mourir un jour, bien sûr, mais qu'avant ça, vous allez suivre tout le processus habituel avec la maturité, le vieillissement, et ça fait partie de la vie. C'est quelque chose dont il faut tenir compte et pas trop s'étonner quand ça arrive. Et quand on sent, par exemple, qu'on a les neurones qui ralentissent, bon, ben voilà.
C'est pas grave, c'est comme ça.
C'est comme ça, voilà.
Bah oui, c'est comme ça, de toute façon.
Oui.
On n'échappe pas au temps, même si le temps nous échappe.
C'est pas plus étrange que d'avoir des mains au bout des bras. On n'y peut rien. On a des mains au bout des bras, c'est comme ça. On a des pieds au bout des jambes. Et on a, à la fin de notre existence, on a une phase où on est un peu plus ralenti.
Le temps. Et ben voilà, sujet inépuisable et qui nous ramène évidemment aux grandes questions. Sauf que l'horloge tourne, hein, sur RFI, même si elle n'est pas atomique. En attendant, pour en savoir plus sur le temps qui reste ou pas, rendez-vous à la Cité des Sciences à Paris pour cette première conférence internationale, congrès international sur le temps. Tous azimuts, hein, le temps perçu, le temps de l'évolution, le temps dans l'art, le temps des horloges et même le temps des magiciens. Merci infiniment, Pourri Lopez-Garcia, d'être venu partager un peu de vos recherches autour du temps. Et rendez-vous donc à la Cité des Sciences pour votre conférence aux origines.
Merci
Marc Lachaiserey. De quoi le temps est-il le nom? Si on veut en savoir plus, on va vous écouter à la Cité des Sciences. Merci à tous les deux.
Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. À peine le temps de dire merci à Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Et nous vous donnons rendez-vous lundi, chers amis auditeurs, pour une émission spéciale avec du reportage à Dakar autour de sciences ouvertes et de sciences ouvertes au sud et aux femmes. À lundi. Tout à l'heure.